Cajou, Jésus raconta la parabole de l'économe infidèle, et les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela et se moquaient de lui. L'enseignement au sujet de l'argent que venait de dispenser le Christ leur avait déplu, parce qu'il touchait un de leurs points les plus sensibles. C'est pour une raison identique que son affirmation est toujours impopulaire de nos jours. Écoutez plutôt. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, c'est-à-dire les richesses. Il est bien évident, pour tous ceux qui connaissent un temps soit peu les Écritures, que Dieu n'institue rien sans avoir au préalable donné d'amples instructions permettant de mener à bien le travail proposé. Dès lors, il s'attend à ce que nous nous y conformions afin de recueillir à la fois son approbation et ses bénéfices. Ces principes présidaient aux offrandes de Caïn et d'Abel et servaient de support tant à l'aide due à la prêtrise lévitique qu'aux oblations du peuple d'Israël et aux diverses fêtes à observer. Ceci n'a rien perdu de sa valeur quant aux dons à faire pour l'Église du Seigneur et au soutien financier à apporter à la proclamation de l'Évangile de Christ. Dans la prolongation de son sermon sur la montagne, Jésus nous met en quelque sorte tous au pied du mur. Ne vous inquiétez donc point, dit-il, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cette instruction est on ne peut plus compréhensible. Ceux qui désirent la suivre doivent avant tout rechercher le royaume de Dieu et la justice divine, bien sûr. La promesse qui découle de l'observation de cette règle d'or est elle aussi parfaitement claire. La nourriture, la boisson et les vêtements ne seront accordés par surcroît. Tout ceci est formel. Et le Seigneur ne dit pas peut-être, ni éventuellement, ni probablement. Il dit toutes ces choses vous seront données. D'aucuns diront, je comprends très bien cet ordre, mais ma foi qui n'est pas aussi grande, aussi agissante, ne me permet pas de suivre Jésus sur ce plan-là. Une telle idée peut-elle raisonnablement émaner d'un chrétien accompli? À quoi peuvent donc être utiles les principes fondamentaux du christianisme à ceux d'entre nous qui ne possèdent pas suffisamment de foi pour vivre en harmonie avec cette partie des enseignements de Jésus-Christ? Après tout, le cheminement du chrétien vers l'éternité n'est-il pas une marche par la foi et non par la vue? Le jour viendra où notre Dieu nous demandera raison de notre foi ou de notre manque de foi. En Genèse 1:1, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Si Dieu les a créés, il doit en avoir été le possesseur. C'est d'ailleurs ce qu'exprime le psalmiste lorsqu'il dit « À l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Car il l'a fondé. Il est très difficile d'ignorer ou même de négliger ce fait, car il correspond à une profonde réalité. Dans le psaume chapitre 50, versets 10 à 15, Dieu dit également par le canal de l'auteur, « Tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu dit encore à Agée, « L'argent est à moi et l'or est à moi. » Et lorsque bien plus tard le Saint-Esprit se servit de la plume de l'apôtre Paul, il lui fit écrire, « La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » Nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter, dit encore l'apôtre Paul. Il est donc évident et indubitable que Dieu est le vrai propriétaire de toutes choses. L'homme, quant à lui, s'est vu confier la gérance des propriétés divines, et ce fait est énoncé dans le premier chapitre de la Genèse, où l'Éternel, en parlant de l'homme, dit qu'il donne domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le même principe est d'ailleurs développé également à la fois dans la parabole des mines, dans celle des vignerons et dans celle des talents. Nous y voyons respectivement un maître confier à ses serviteurs une forte somme d'argent, une vigne et l'équipement d'exploitation nécessaire, une partie de ses biens. Ces écritures démontrent sans qu'aucun doute soit permis que Dieu est le possesseur de tout ce qui existe, tandis que l'homme n'en est que l'intendant. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, dit d'ailleurs, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Les hommes d'affaires empruntent en général tous un certain capital qui leur permet de développer leur commerce ou leur industrie. Chacun d'entre eux considère comme normal de devoir payer l'intérêt de ce prêt pour finalement un jour rembourser le principal. Cet intérêt égale ou dépasse très souvent les 10%. En matière de fermage, le métayer va même jusqu'à donner au propriétaire de la terre un tiers, voire la moitié de sa récolte. Dieu, le propriétaire de toutes choses, nous prête un capital considérable, mais sans toutefois exiger son remboursement. Tout ce qu'il nous demande est de lui rendre un pourcentage tout à fait raisonnable de l'accroissement de ce capital. Ne s'agit-il pas là de quelque chose de tout normal? Et ne pensez-vous pas qu'il est absolument juste que nous rendions à notre Créateur une infime portion de ce qu'il a investi en nous? Mais quel est le montant exact? Est-il nettement déterminé? Pour le savoir, le moyen le plus logique et le plus simple est de tout simplement interroger la Bible. En Genèse, chapitre 14, verset 18 à 20, et Hébreux, chapitre 7, verset 14, il est dit, entre autres exemples, qu'Abraham paya un dixième de ce qu'il avait ramené d'une certaine campagne à Melchisedec, dont l'ordre donna naissance à notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Posons-nous maintenant une question très importante. Le Christ est-il digne de moins d'honneur à nos yeux que Melchisedec, à ceux d'Abraham? En Genèse 28, 22, Jacob prend un engagement solennel devant l'Éternel. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras, c'est-à-dire 10%. Environ 4 siècles plus tard, lorsque Dieu ordonna à Moïse d'écrire la loi destinée au peuple d'Israël, il entérina le système de la dîme qui était déjà en usage depuis longtemps. Dieu explique en Lévitique 27 ans la raison pour laquelle il avait dit à Moïse de demander le don des 10%. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Après cela, Dieu donne à Moïse des instructions précises pour qu'il incorpore à ses dispositions certaines conditions légales réglant la destination exacte de la dîme divine sur les accroissements de sa propriété. Il dit, « Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font. Cependant, les Lévites, qui constituaient la tribu d'où était issue la prêtrise et qui ne possédaient rien en propre, devaient eux-mêmes donner 10% de cette dîme à ceux d'entre eux qui avaient été nommés sacrificateurs. Une seconde dîme devait être prélevée sur les 9/10 restants afin qu'elle soit consumée durant la fête à Jérusalem. De plus, une dîme dite des pauvres et que l'historien Flavius Joseph appelle la troisième dîme, était offerte selon la prescription de Deutéronome chapitre 14, qui disait « Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras devant tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront. » Mais cela n'est pas tout. Restent maintenant les offrandes diverses, comme nous allons le voir. Après chaque période de 7 ans, le Juif devait remettre toutes les dettes. Voyons ce qu'en dit Deutéronome chapitre 15, verset 1 à 3. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche à l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartient chez ton frère. Chaque 7e année, la terre ne pouvait être ensemencée en vertu de l'ordonnance Lévitique, par le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 3 et 4. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Un esclave ne pourrait rester à la propriété de son maître juif plus de 6 ans. Car les livres de l'Exode et de Deutéronome étaient formels. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre chez toi. Chaque année de jubilé, c'est-à-dire après 7 fois 7 ans, l'Israélite ayant acquis une terre devait accorder un droit de rachat à celui qui la lui avait primitivement vendue ou à ses héritiers. Ce droit, dit de rédemption, était une fois de plus basé sur le principe voulant que l'homme ne soit en fait le véritable propriétaire de rien. C'est ce que Dieu exprime en Lévitique 25, 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étranger et comme habitant. En plus de tout ceci, il restait encore aux Juifs à payer des taxes annuelles souvent fort lourdes, et on ne peut s'empêcher d'admirer ces gens pour leur libéralité et leur profond respect pour la volonté de leur Dieu, créateur et protecteur. On se voit même contraint de se demander quelle serait l'immensité et la variété des choses que pourrait accomplir de nos jours l'Église de Jésus-Christ dans la voie de l'évangélisation du monde si ses membres étaient aussi généreux et aussi conscients de leur responsabilité envers Dieu que l'étaient les Juifs. Nous venons d'examiner brièvement ce que Dieu demandait à ses enfants dans l'Ancien Testament. Il nous reste à considérer soigneusement si la dîme est toujours de stricte application sous la juridiction de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire de ce côté-ci de la croix. Je vous donne maintenant rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de cette émission intitulée